Bonsoir à tous. J'aimerais qu'on puisse ouvrir ensemble le Saint-Livre dans le psaume 8. On a chanté « Jésus qui est comparable à toi » et ce que nous allons lire dans le psaume reflète un peu la même pensée. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, c'est ce que nous allons faire. La lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Tournez quelques pages en avant et allez voir le psaume 19 au verset 2. J'aime beaucoup ce verset et souvent on le voit dans des cadres. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Dieu est grand. À qui pourrions-nous le comparer? À personne d'autre. Il n'y a personne à qui on puisse dresser un tableau comparatif. Dieu est grand dans le fait que dans l'infiniment grand, comme dans l'infiniment petit, on n'arrive pas à même trouver la limite. Dès qu'on trouve un télescope qui est capable d'aller plus loin que le précédent, on s'aperçoit quoi ? De quoi ? Qu'il y a toujours quelque chose. Et ça, la grandeur de Dieu. Mais si je trouve un microscope qui est capable d'aller toujours plus loin dans le petit, qu'est-ce que je vois ? Qu'il n'y a pas de fin non plus. Parce que Dieu est le Dieu de l'infini. C'est le Dieu de l'infiniment grand comme de l'infiniment petit. Ici, ce texte de David nous rappelle à quel point tout lui est soumis. Et pourtant nous, petite poussière, sur la poussière qu'est la Terre, dans la galaxie, qui elle-même est une poussière parmi toutes les galaxies, bref. Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous pour contester avec Dieu ? Qui sommes-nous pour vouloir faire de nous-mêmes ? L'homme a une soif d'être Dieu à la place de Dieu. Et pourtant, il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour se rendre compte à quel point Dieu est partout. Quand on lit les livres de Job, quand on entend les paroles de Dieu à Job, qu'est-ce que Dieu invite Job à faire ? À ouvrir les yeux et à regarder. Alors j'ai prévu quelques photos. Je voulais vous parler d'une chose. Dieu, c'est celui qui a fait les lois. Je ne sais pas si vous aimez les mathématiques, mais il y a notamment une loi mathématique que j'aimerais juste mettre en lumière ce soir, à travers la création de Dieu. Est-ce qu'on peut éteindre peut-être juste l'estrade le temps qu'on passe les photos ? Vous savez ce qu'il c'est ? Vous savez ce que c'est ? Alors là, c'est un peu déformé parce que les proportions de l'écran qui sont adaptées ici. Mais ici, on a un coquillage en forme de spirale. Cette spirale, elle est définie mathématiquement par ce qu'on appelle une série de Fibonacci. Vous regarderez sur Internet Fibonacci nature et vous y trouverez tout un tas de photos. Je peux passer à la suite. Ici, on a la manière avec laquelle une rose s'ouvre et on retrouve la même spirale dans les mêmes proportions exactement. Ici, des spirales identiques, imbriquées les unes dans les autres, qui forment ici ce qu'on trouve à l'intérieur d'un tournesol. Comme on peut le voir, ici, pour la pomme de pin, c'est pareil. Des courbes imbriquées. Tout ce qu'on peut voir n'est pas en désordre. C'est structuré, c'est ordonné, c'est le doigt de Dieu, ça. Ici, on retrouve les mêmes courbes. Et là, plus on va dans les photos, et plus on monte, et vous allez voir. Ici, c'est un cyclone. La même courbe. On peut aller plus loin. La galaxie, c'est aussi la même spirale. Dieu a établi des lois. Les mathématiques, vous voyez, c'est pas si pénible que ça, hein. Ça nous amène à réaliser quoi ? Que Dieu a établi des lois, des règles. Et quand on ouvre un tant soit peu les yeux, on arrive à distinguer le doigt de Dieu. Parce que c'est pas un hasard, ce sont des proportions qui sont bien établies. Ce sont des lois qui sont écrites quelque part. C'est Dieu qui les a créées, ces lois. Et c'est Dieu qui fait que finalement, quand on ouvre les yeux, quand on regarde la forme d'une vague, on retrouve encore cette spirale. On trouve des traces de Dieu partout. On trouve des proportions divines partout. Quand on veut bien regarder les choses. Tu peux éteindre Julie. Merci. Dieu est grand. Je ne sais pas si on peut le réaliser. On peut rallumer aussi là. Et quand Dieu dit dans sa parole que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y fait pas attention, c'est bien vrai. L'homme, il se croit tout puissant, mais il n'est qu'une poussière. Il n'est qu'une poussière. Qui est-il à côté de Dieu ? Et pourtant, Dieu a tout mis sous les pieds de l'homme. Ici, dans le psaume 8, il est parlé de Jésus. L'homme dont il est question, c'est Jésus, parce que tout a été mis sous les pieds de Jésus. Qu'est-ce que l'homme ? Tu l'as mis pour un peu de temps inférieur à Dieu. Mais oui, Jésus a quitté sa gloire céleste. Il est Dieu. Et pourtant, il s'est placé lui-même à l'étage inférieur. Et tout a été mis sous ses pieds. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a dit qu'il fallait qu'il domine sur tout ce qu'il avait créé. Et l'homme s'est vu trop beau et a voulu déroger, désobéir à Dieu. Alors que Dieu pouvait être avec l'homme au jardin d'Éden, il parcourait le jardin pour avoir un temps avec l'homme et il partageait ses connaissances, il partageait un moment agréable avec l'homme. Eh bien, l'homme a tout gâché. L'homme a tout gâché. Et dès le départ, l'homme a voulu se faire Dieu. L'homme n'a pas cru. L'homme a douté de Dieu. Il a douté de la bienveillance de Dieu à son égard. En écoutant une question qui lui était posée, Dieu a-t-il réellement dit ? C'est ainsi que l'homme a méprisé Dieu. Lui qui avait toutes fait ces choses belles, magnifiques. Il avait placé l'homme dans ce beau jardin, avec toutes ces belles choses. Et pourtant, l'homme en est venu à douter de la bienveillance de Dieu à son égard. L'homme a voulu se croire supérieur à ce qu'il était. L'homme a voulu aussi par là même diminuer Dieu, en voulant se mettre lui supérieur à Dieu. J'ai mis pour titre à ce message « À quelle distance es-tu de Dieu ?» Ici, je vous ai dépeint à travers cette lecture et ces quelques petites photos la grandeur de Dieu, le côté divin de Dieu qui ressort dans tout ce qu'il a établi. Si vous regardez des flocons de neige au microscope, vous verrez qu'ils sont beaux et il n'y en a pas un comme l'autre. Même dans tout ce qui ne se voit pas, Dieu avait fait des choses belles. Et nous, derrière, on en vient à remettre Dieu en question. On veut pas réaliser qui est vraiment Dieu. On cherche à le limiter. On cherche à se détourner. Quand l'homme a péché en Éden, il s'est éloigné de Dieu. Il s'est détourné de Dieu. Il lui a tourné le dos. Vous savez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle l'apostasie. C'est exactement ce que veut dire ce mot. Et l'apostasie, c'est quand le péché qui est en moi va faire que je m'éloigne de Dieu. tout simplement. Ça va faire le fait que quand je suis apostat, quand dans mon cœur il y a cette apostasie, ça veut dire que le péché qui est là fait une séparation entre moi et Dieu, parce qu'à un moment donné dans ma vie, eh bien, j'ai tourné le dos à Dieu. Et comme le dit la parole, cette distance qui s'est créée, ce n'est rien d'autre que le péché. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble Ésaïe 59, les deux premiers versets. Ce que je vous dis là, c'est la Bible qui le dit. Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face. C'est l'homme qui s'est détourné de Dieu. Et c'est l'homme qui, par le péché, a installé cette distance avec Dieu. Et l'homme a bien réalisé le problème. Si on regarde ensemble ce qu'on trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, on a une scène intéressante, du moins qui nous amène à réfléchir, parce que c'est pas, quand je veux dire intéressant, je trouve ça quand même dommage pour tous ceux qui se sont privés quelque part. Exode, chapitre 20, verset 21. Le peuple se tenait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Dieu venait de parler du haut du ciel. Dieu voulait que le peuple puisse s'approcher, mais le peuple, lui, n'était pas tellement intéressé par le fait de s'approcher de Dieu. Le peuple n'était pas tellement intéressé de connaître Dieu davantage, parce que ce qu'ils avaient déjà entendu les avait bien refroidis. Ce qu'ils avaient entendu du ciel, les 10 commandements, leur déplaisaient, parce qu'au fond de leur cœur, il y avait quelque chose qui faisait qu'ils n'avaient pas envie d'aller plus loin. Cependant, ils étaient quand même bien conscients de ce qu'ils avaient vécu. Ils avaient quand même bien réalisé ce qui s'était passé en Égypte. Ils avaient bien vu la mer s'ouvrir et ils sont bien passés. Donc ils ne pouvaient pas nier le fait que Dieu existait. Et quand vous tournez quelques pages, vous allez au chapitre 32 et qu'on lit le verset 5, Exode 32, verset 5, on voit ce verset qui, si on le tire de son contexte, peut être surprenant. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, devant Dieu, et s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » De quel Dieu s'agissait-il ? D'un veau d'or. Il y avait une distance avec le vrai Dieu qui s'était installée. Alors comme l'homme est malin, il a tout fait pour raccourcir la distance à sa manière. Et c'est ainsi qu'il a mis Dieu dans une boîte. Il a commencé à se dire, mais non, cet aspect-là de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Cet aspect-là de Dieu, ça ne m'intéresse pas trop non plus. Ça, dans ma vie, j'ai pas trop envie de le régler. Donc, Et on commence ainsi à se faire une image de ce qui serait notre Dieu. Et c'est ainsi que le veau d'or est né. Quand je commence à ne pas mesurer réellement qui est Dieu, quand je commence à dire que de Dieu, je ne prends que ce qui m'intéresse, je me fabrique une idole. Et une idole, comme ça ne parle pas, comme ça ne bouge pas, eh bien, on peut la placer facilement au milieu du peuple. C'est ainsi que les Israélites étaient tout contents et qu'ils croient qu'ils vont fêter une fête en l'honneur de l'Éternel. Ils ont Dieu au milieu d'eux, du moins ce qu'ils pensent. Ils vont pouvoir le toucher sans être consumés. Ils vont pouvoir se mettre juste devant, se prosterner devant lui. Ils pensent que c'est Dieu, mais non, c'est celui qu'ils ont choisi de se faire. Quand je commence à faire de Dieu celui qui m'intéresse, j'ai fait une idole dans mon cœur. Et cette idole ne pourra pas faire grand-chose. Et c'est ainsi que dans nos églises, il y a ce qu'on appelle l'apostasie. Parce que finalement, on a remplacé Dieu pour un veau d'or. Alors peut-être qu'il n'est pas matérialisé, mais on choisit ce qu'on veut. On prend ce qui nous intéresse. Et c'est ainsi que c'est plus Dieu dans l'église, c'est une idole. Et l'idole qu'elle a dans l'église, elle ne fera pas grand-chose. C'est pas cette idole-là qui va permettre des guérisons. C'est pas cette idole-là qui va délivrer des vies. C'est pas cette idole-là qui va changer des vies. Non! Cette idole-là, c'est une idole. Et elle peut rien faire. À partir du moment où je refuse, de mon plein gré, de me mettre en règle avec Dieu, avec qui il est vraiment, avec tout ce qui revient à sa même personnalité, tout ce qu'il a établi. Dieu, il est à prendre tel qu'il est. Et grâce à Dieu, il nous prend aussi tel que nous sommes. Je crois qu'on peut dire amen à ça. Je crois qu'on peut être heureux de savoir qu'on peut s'approcher de lui tel que nous sommes, avec notre péché, avec notre suffisance, avec justement ces tentatives de vouloir raccourcir la distance d'une manière artificielle en mettant Dieu dans une boîte. Peut-être que pour certains, ils n'apprécient pas cette parole qui dit « tu ne mentiras pas ». Pour d'autres, eh bien, ils n'apprécient pas la parole « tu ne voleras pas ». Pour d'autres, ils n'apprécient pas cette parole qui dit « tu ne commettras point d'adultère », etc. Quand on commence à prendre ce qui nous intéresse dans sa parole, on est dans l'idolâtrie quelque part. Parce qu'on met Dieu en boîte et on n'a pas à mettre Dieu en boîte. Dieu est Dieu. Et il nous est important de comprendre ces choses. Lisez avec moi ce que je vous dis. Je ne fais que résumer un verset de la Bible. Et on le trouve ce verset dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1er et au verset 22. Ce verset résume à merveille ce que je viens de dire. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils ont fait de Dieu quelque chose de beaucoup plus simple. C'est ça. C'est ça que dit ce verset. Ils ont pris ce qui les intéressait. Or, quand on agit ainsi, ça montre bien une chose, c'est qu'on ne craint pas Dieu. Quand on commence ainsi à se détourner de qui est Dieu, quand on a compris qui est vraiment Dieu, on ne peut pas agir ainsi. Ou alors, c'est qu'on n'en a pas peur. C'est qu'on ne craint pas Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse se poser la question. Moi, ce soir, dans quel état je suis ? À quelle distance je suis de Dieu ? Est-ce que je suis comme le peuple qui s'éloignait, qui restait loin de la montagne, quitte à se faire un veau où est-ce qu'ils étaient ? Qui étaient au milieu d'eux, certes, mais heureusement que c'était un veau, parce que si c'était le vrai Dieu, ils auraient tous été consumés. Heureusement que c'était une idole, quelque part. Ou est-ce que, finalement, je prends Dieu dans tout ce qu'il a dit ? Est-ce que je considère Dieu ? La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Elle dit aussi que la crainte de l'Éternel, c'est un trésor. Si vous voulez le vérifier, Ésaïe 33, versets 5 et 6, et le verset que j'ai cité précédemment, Psaume 111, verset 10. La sagesse, c'est la vertu qui va m'amener à choisir le bien plutôt que le mal. C'est ça la sagesse. Et la première bonne décision de ma vie, ça sera de commencer à craindre Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? La crainte de Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est pas une peur, parce qu'au contraire, Dieu, il veut qu'on puisse s'approcher de lui. C'est ce qu'il avait établi à l'origine. Donc il veut qu'on s'approche de lui. Donc quelque part, eh bien, c'est pas une peur, parce que la peur va me laisser à l'écart. C'est une crainte respectueuse, ce souci de respecter vraiment celui qui nous a créés. C'est ce souci perpétuel qu'on a de savoir si oui ou non ma vie lui est agréable ou est-ce que ma vie lui est désagréable. C'est les deux. Et il faut bien mesurer ces choses. Je sais qu'ici, on est habitué à ces paroles. Mais quand même, on va le lire tout à l'heure, il faut les deux. Il faut considérer à la fois le fait que Dieu veuille qu'on s'approche de lui, c'est une réalité. Mais l'autre réalité, c'est qu'il nous faut avoir conscience de qui nous approchons. Si vous êtes invité à l'Élysée, j'imagine que vous n'irez pas en jean et en basket à l'Élysée. Vous vous habillerez en conséquence, quitte à même emprunter des vêtements si vous n'avez pas ce qu'il faut. Mais vous ferez tout ce que vous pouvez faire pour être digne de l'endroit où vous vous rendez. Dieu, il faut le prendre tel qu'il est. Et quand je commence à le craindre, quand je commence à respecter ce qu'il est, eh bien je vais commencer peut-être à m'interroger sur qui il est. Qu'est-ce qui peut faire que je peux être désagréable à Dieu ? Qu'est-ce qui peut faire que je suis agréable à Dieu ? Et c'est ainsi que je vais être encouragé à faire sa connaissance en lisant sa parole. Et j'aimerais vous encourager, mes frères et sœurs, mes amis, à lire sa parole, parce que ce n'est qu'en lisant sa parole qu'on apprend vraiment qui il est. Après, nous, à notre échelle, si on est intelligent, on va quand même réaliser que nous sommes rien à côté de celui qui a tout créé. Mais quand même, on y découvre sa personnalité, on va y découvrir son amour, mais on va aussi y découvrir sa justice. Et on va découvrir qu'une seule œuvre, Jésus-Christ mort à la croix du calvaire, il a à la fois mis en pratique un amour inconditionnel envers l'homme, mais en même temps, il a aussi mis en pratique sa justice impartiale. Parce que Jésus est mort condamné. Il est mort condamné pour notre péché, pour mon péché, pour ton péché. Justice a été faite, mais en même temps, un acte d'amour merveilleux a été fait à la croix du calvaire. Et c'est ce message que nous vous annonçons peut-être à vous qui êtes là pour la première fois. Dieu, il est ce qu'il est, il est juste, mais il vous aime. Et son désir, c'est que vous puissiez vous approcher de lui. C'est ce qu'il désire. Seulement, il ne nous faut pas faire comme le peuple d'Israël, qui prenait que ce qui les intéressait. Il nous faut considérer Dieu dans toute sa divinité, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qui reflète sa personnalité et tous les conseils qu'il nous a donnés. Vous allez me dire, c'est impossible. Comment je pourrais obéir à tout ce qu'il a écrit ? Comment je pourrais ainsi lui être agréable ? Eh bien, c'est par la foi qu'on lui est agréable. C'est par la foi dans l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus est mort sur la croix sans péché. Jésus est mort à la croix et il était sans tache. Et il est mort pour notre péché. Et celui qui croit en lui, eh bien, celui qui s'est réconcilié avec Dieu, celui qui s'est approché humblement devant Dieu, tel qu'il est, avec son péché, et qui dans son cœur lui a demandé pardon, dans son cœur, réalise qu'il n'a pas affaire, même au président, il a affaire à celui qui a tout établi. Eh bien, il peut s'approcher, mais il vient avec un cœur plein d'humilité, un cœur sincère, sachant que Dieu voit même au cœur. Il ne cherche pas à être faux parce qu'il a compris que Dieu voyait au-delà de nos œuvres, de nos actions, de nos paroles, parce qu'il voit directement dans notre cœur. Il connaît nos intentions. Et celui qui est droit devant Dieu dans son cœur, eh bien, c'est celui qui va pouvoir s'approcher conscient de ce que Dieu voit et va lui demander sa grâce. Et dans le même acte, il va y avoir quelqu'un qui s'approche tel qu'il est de Dieu avec son péché. Et de l'autre côté, il va y avoir Dieu aussi qui, tel qu'il est, va lui donner sa grâce. Il va lui pardonner parce que Jésus-Christ a payé. Il nous faut respecter tout ce qui est écrit. Et c'est ainsi qu'on peut obtenir le salut. Et c'est la Bible qui le dit. C'est en vivant par la foi dans l'œuvre de Jésus à la croix que je peux marcher quand même avec l'assurance d'être sauvé, d'être pardonné, et que même si Dieu est ce qu'il est dans sa sévérité, eh bien, on a compris aussi, et on le vit jour après jour, que Dieu est aussi ce qu'il est dans sa bonté. Et il y a les deux. Le Seigneur nous invite à respecter sa parole dans tout ce qu'il nous a dit. Respecte. Quand Moïse a construit le tabernacle, il a reçu une instruction. Regarde et fais d'après le modèle, sans t'en écarter, ni à droite, ni à gauche, parce que Dieu avait tout dit. Quand David a reçu, je l'ai partagé il y a une semaine ou deux, quand David a reçu les plans du temple, Salomon, malgré toute la sagesse qu'il avait reçue, s'est bien appliqué à suivre les plans que son père avait faits. Il a suivi les plans et il n'a pas cherché à improviser. Il n'a pas cherché à se dire, mais tiens, ça, je vais l'améliorer ou ça, je vais le changer. Parce que quand on fait ça, on refabrique une idole. Et cette idole, elle pourra rien contre nous. Elle ne pourra rien contre la colère de Dieu. Si je suis en train de louer une idole, je désobéis au commandement qui dit, tu ne te feras pas d'image taillée. Tu considéreras Dieu tel qu'il est. Et tu prendras tout. Il faut tout prendre. Il ne faut pas chercher à s'arranger Dieu à notre sauce. Parce que si on commence à faire ça, on est dans une certaine forme d'idolâtrie. Et on est dans le péché. La Bible dit, considère à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Il faut prendre les deux. Il faut prendre les deux. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'est approché. Moïse avait ce cœur avec Dieu qui lui permettait d'aller plus près que le peuple. Moïse avait compris qui était Dieu et il n'a pas cherché à improviser. Il s'est appliqué au modèle qu'il avait reçu et il n'est pas que question du tabernacle. Il est question de toute parole qu'il devait prononcer. Il était question de tout ce qu'il devait faire, hormis une fois où il a frappé le rocher, il devait parler. Mais on voit que la punition est tombée. Dieu a fait grâce quand même. Mais il y a des conséquences. Quand on commence à désobéir, eh bien il y a des conséquences. Moïse a quand même avait ce cœur qui lui permettait de s'approcher de Dieu parce qu'il avait compris qu'il fallait que lui règle sa vie selon ce que Dieu lui disait, et non l'inverse. Aujourd'hui, on est dans une église qui est pleine d'apostasie. Pourquoi ? Parce que on cherche à faire de la Bible, on cherche à changer la Bible pour tordre les sens en fonction de ce qui nous arrange. Mais Dieu ne veut pas ça. Et quand on commence à faire ça, on est dans l'apostasie, on va s'éloigner de Dieu. C'est mécanique. Quand on commence à tordre les paroles en faveur de l'homosexualité, eh bien, on tord le sens de ce que la parole de Dieu veut dire. Dieu désapprouve complètement ce genre de choses. Dieu désapprouve l'adultère. Une relation sexuelle hors mariage, c'est un adultère, et ça plaît pas à Dieu, et il faut l'accepter. Et si je veux plaire à Dieu, il me faut prendre la décision de mettre ma vie en règle. Il faut lui demander pardon, mais ne certainement pas demeurer dans cette situation, parce que dans ce cas-là, je foule aux pieds la grâce que Dieu me fait quand il me pardonne. Et c'est encore pire, presque. Quand Dieu me pardonne, j'ai le souci de mettre ma vie en règle avec lui et de lui demander pardon. Et je fais selon le modèle qui m'est donné. C'est ainsi que ce n'est pas à nous de mettre en cause la parole de Dieu en disant « Mais est-ce que Dieu a vraiment voulu dire ça ?» Non. Ce qu'il faut considérer, c'est la parole de Dieu, elle se retrouve en désapprobation avec ce que je fais. Le modèle que je vois est différent, ça veut dire que moi, il faut que je change. Ça veut dire que moi, à un moment donné, il faut que je fasse quelque chose, parce que si je demeure dans cette désobéissance, je suis sous la colère de Dieu. Et Dieu ne veut pas que je sois sous sa colère. Dieu, il veut que je sois sous son aile. Je sois sous sa protection. Dieu, ce qu'il désire, c'est me mettre à l'abri de celui qui veut me faire du mal. Dieu, il nous veut du bien. Il faut les deux. Il faut prendre Dieu dans son entier. En toute nation, dit Pierre, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Être agréable à Dieu, ça passe par la crainte de l'Éternel. Ça passe par ce souci qu'on va avoir sur notre comportement pour savoir si oui ou non, nous sommes agréables à Dieu. C'est Asaph qui écrit aussi dans le psaume 73, versets 27 et 28. Et on y retrouve ces deux pensées. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Donc si je m'éloigne, je vais périr, parce que je serai loin de lui. Et c'est moi-même qui serai responsable de mon propre choix de me tenir éloigné qui fera que je périrai. Ce ne sera pas de la faute de Dieu. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Et Asaph, il écrit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous écrit aussi ceci dans Hébreux 4, versets 15 et 16, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Dieu veut que nous nous approchions parce qu'il sait que c'est auprès de lui que nous aurons la vraie sécurité. Si on se tient volontairement éloigné de lui parce que on ne veut pas prendre ce qui nous arrange pas, eh bien nous serons seuls responsables de notre comportement. Toujours dans Hébreux, chapitre 10, versets 22 et 23, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. » Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est écrit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit, psaume 91, verset 1. Donc cette promesse-là, elle est pour nous. Seulement si je m'approche de Dieu. Si je vais me réfugier sous ses ailes, si je reste éloigné, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même si je suis sous la colère, parce que je ne serai pas protégé. Il nous faut aller à l'abri, il nous faut nous approcher de lui, parce que c'est seulement là qu'est la bénédiction. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur t'appelle, il t'appelle par ton nom. Et là encore une fois, je cite une parole de l'Écriture, Ésaïe 41, 43, verset 1er. « Je t'appelle par ton nom et je veux te faire du bien. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » C'est écrit ces paroles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il est prêt à me pardonner pas parce que j'ai fait ceci ou cela de bien dans ma vie, pas parce que j'ai mérité quoi que ce soit, simplement parce qu'il est Dieu et il est amour aussi. Et il est prêt à me pardonner parce qu'il m'aime. Par contre, il ne supportera pas le péché et il me faut le lui livrer. Quelques versets qui nous rappellent cette vérité. Qu'est-ce qui arrive à celui qui est auprès de Dieu ? Psaume 25, verset 20. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Auprès de lui, on a un refuge. Au psaume 141, verset 8, on a la même idée. C'est vers toi, éternel Seigneur, que se tournent mes yeux, c'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Psaume 36, verset 9. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Auprès de Dieu, il y a une vraie source de vie. C'est là que nous pourrons nous épanouir. C'est là que nous pourrons être heureux. On ne peut pas être heureux loin de lui. Seulement, il me faut m'approcher de lui en prenant en considération de qui il est et de qui je suis. Il me faut m'approcher, pas de n'importe quelle manière, mais m'approcher quand même. Psaume 130, verset 4. Le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. C'est auprès de Dieu que nous serons pardonnés. Et nous serons pardonnés dans la mesure où nous nous serons approchés suffisamment de Dieu pour lui demander pardon. Demander pardon, ce n'est pas rester loin et dire pardon Seigneur. Et finalement, on reste loin. C'est s'approcher, déjà, dans une attitude de cœur, de réaliser qui est Dieu. S'approcher de lui. Et une fois qu'on approche, Dieu, par sa lumière, nous montre ce qui ne va pas dans notre vie. Et on réalise vraiment qui nous sommes. On réalise vraiment le péché qui est en nous. Et c'est ayant cette pleine réalité en tête que nous pourrons lui demander pardon. D'une manière la meilleure qui soit, parce que Dieu nous aura fait réaliser notre péché. C'est ainsi que Paul prie et qu'il dit « Je prie afin qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Quand on s'approche de Dieu, eh bien on est éclairé. C'est pour ça qu'il nous faut aussi nous approcher. Dieu, il veut te faire du bien. Et j'aimerais qu'on termine ensemble sur cette lecture. Jérémie chapitre 32, versets 39 à 42. Jérémie 32, versets 39 à 42. Je leur donnerai un même cœur et une même conduite, afin qu'ils me craignent toujours. La crainte de Dieu, c'est toujours, à perpétuité. Et quand bien même on sera dans le ciel avec lui, que la crainte, elle y sera toujours. Parce qu'il est Dieu et on lui doit ce respect. C'est obligatoire. Dieu n'est pas notre copain, bien au contraire. Il est Dieu. Je ne me détournerai plus d'eux. Je retourne au verset 39, pardon. Afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leur fils après eux. Dieu veut nous faire du bien. Ça n'a pas changé. Je conclurai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'écartent pas de moi. On comprend bien ici, juste dans cette phrase, que la crainte de Dieu, elle est vraiment un trésor. Parce que c'est seulement en ayant la crainte de Dieu qu'on pourra avoir le bien qu'il veut nous donner. Ça marche ensemble. Je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'écartent pas. Si j'ai la crainte de Dieu, je peux m'approcher. Et c'est Dieu qui le veut, c'est son désir. Verset 41, je me réjouirai à leur sujet pour leur faire du bien. Et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle l'Éternel. De même que j'ai fait venir sur ce peuple tout ce grand malheur, de même je ferai venir sur eux tout le bien dont je parle à leur sujet. Amen. Le Seigneur veut te faire du bien. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. À quelle distance suis-je de Dieu ? C'est le titre de cette prédication. À quelle distance suis-je de Dieu ?